êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. 23 candidats à l'exil ont été tués après la tentative de passage de près de 2000 clandestins dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. Un précédent bilan faisait état de 18 morts. Coup d'envoi hier des Jeux méditerranéens à Oran, en Algérie. Entretien avec le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. Il a assisté hier soir à la cérémonie d'ouverture. La ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, quitte le gouvernement. Elle est pressentie pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h sera Diane Mazloum pour le Musée National, publié aux éditions Stock. Elle raconte la nuit qu'elle a passée au Musée National de Beyrouth. Extrait dans votre journal. Le bilan s'est alourdi après la tentative de passage de près de 2000 clandestins dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc. 23 candidats à l'exil ont été tués. Un nouveau bilan fourni hier soir par les autorités locales marocaines. C'est de très loin le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans l'autre enclave espagnole de Ceuta. Les deux enclaves sont les seules frontières de l'Union européenne avec le continent africain. L'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ont exprimé leurs plus vives inquiétudes et rappelé la nécessité en toutes circonstances d'agir pour la sécurité des migrants et des réfugiés. L'ancien Premier ministre tunisien Hamadi Jebali, cadre d'Ennahda, a entamé une grève de la faim après son arrestation jeudi dernier. Une arrestation pour des soupçons de blanchiment d'argent. En réaction, le Front de salut national qui soutient l'ancien Premier ministre a dénoncé une campagne menée par le ministère de l'Intérieur et l'a accusé d'avoir fait main basse sur la justice. C'est l'un des plus grands événements sportifs organisés par l'Algérie depuis des années. La ville d'Oran accueille depuis hier les 19e Jeux méditerranéens. 26 pays, dont la France, sont représentés. 3400 athlètes ont fait le déplacement. Le sénateur Rachid Temal, président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat, était à Oran où il a assisté hier soir à la cérémonie d'ouverture. Rachid Temal.
C'est, je crois, important pour l'Algérie de pouvoir organiser à nouveau un événement international comme les Jeux méditerranéens. Et je crois qu'il était important, moi en tant que président du groupe d'amitié France-Algérie, de participer bien sûr à cet événement-là. Parce que vous avez bien noté qu'il y a eu quelques mois assez compliqués entre la France et l'Algérie. Et donc nous sommes dans une phase de dégel et de réchauffement. Et donc je crois que vous savez qu'au Sénat, nous sommes très attachés à la diplomatie parlementaire. Nous croyons à la diplomatie parlementaire qui, au-delà des représentants des deux exécutifs, permet entre les parlements justement de travailler, de dialoguer, de faire des propositions sur des textes de loi, en tout cas sur un certain nombre de questions et d'améliorer les relations. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi je suis présent parce que, encore une fois, la diplomatie parlementaire est essentielle à la France et bien sûr au Sénat français.
Et ces Jeux interviennent avant le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'est important aussi cet événement pour la France et l'Algérie.
Bien sûr, parce que encore une fois, il y a deux façons de regarder son histoire. Il y a celle où chacun tente de réécrire, chacun tente de comprendre. Je crois qu'il y a eu, il y a une histoire commune entre la France et l'Algérie. Il y a maintenant 60 ans, il y a eu une indépendance. Et ce qui nous, je crois, ce qui est important des deux côtés de la Méditerranée, en tout cas pour moi, c'est le vœu que je formule, c'est que la jeunesse des deux pays se retrouve notamment pour construire ensemble l'avenir. Et aujourd'hui, là, je crois que l'espace méditerranéen est important. Et on le voit d'autant plus que la question d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine, c'est aussi l'accès à un certain nombre de, notamment au gaz algérien. Donc on voit bien que des deux côtés de la Méditerranée, il y a un intérêt à travailler ensemble. Et donc il faut que la France et l'Algérie regardent leur histoire droit dans les yeux, avec à chaque fois, bien sûr, des pages, j'allais dire, glorieuses, des pages un peu moins. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a eu 60 ans l'indépendance d'Algérie, mais je crois que maintenant, il faut aller vers l'avant. Et moi, je rêve d'un traité, vous savez, après les trois guerres en un siècle entre la France et l'Allemagne, il y a eu le traité de l'Élysée, qui a consacré énormément et travaillé énormément sur les relations entre les deux États. Et je crois que moi, je rêve d'un traité, soit à nouveau de l'Élysée entre la France et l'Algérie, soit signé à Alger, chacun trouvera le compte. Mais je crois que ça pourrait être une initiative forte à la fois des présidents algériens et français avec leurs parlements respectifs.
Il faudra que la France revienne sur la restriction des visas, notamment vis-à-vis des Algériens.
Moi, je reste persuadé que la question des visas, il faut la prendre dans le bon sens. Si la France veut toujours être un lieu qui attire notamment, on pense notamment aux étudiants, je pense aux étudiants notamment, et que justement le savoir français, la langue française puisse s'exporter pleinement, alors il faut que la France puisse être une terre où, de par le monde, on souhaite venir y étudier pour apprendre le savoir-faire français, pour la langue. Et puis après, vous savez, ça crée des habitudes, même quand les étudiants rentrent chez eux, pour notamment les marchés pour les entreprises françaises. Donc je crois qu'il faut effectivement revenir sur cette question-là. Il faut bien sûr que les États, notamment l'Algérie, contribuent notamment sur la question des retours quand il y a des déclarations pour des gens sans papier. Mais encore une fois, je pense qu'il est important de bien dissocier les deux questions. Là, la question importante, à mon sens, c'est la relation entre l'État et donc faire en sorte que la France reste, pour l'Algérie aussi, un partenaire privilégié.
Le sénateur Rachid Etemal, président du groupe d'amitié France-Algérie, il répondait à Loïc Barrière. Ce dimanche marque le début du tournoi de football aux Jeux méditerranéens d'Oran. Le Maroc jouera à 19h heure internationale face à la France. Les Lions de l'Atlas défieront une équipe de France qui a terminé 5e au tournoi de Tarragone en 2018. Une roquette s'est abattue hier près d'un complexe gazier du nord de l'Irak, la 3e en 72 heures, un champ gazier qui se trouve entre les villes de Kirkouk et Souleymanie. Emmanuel Macron a confirmé hier sa confiance à Elisabeth Borne. Le chef de l'État a chargé la première ministre de conduire de nouvelles consultations des groupes parlementaires. La ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, quitte le gouvernement. Elle est pressentie pour prendre la présidence de l'Assemblée nationale. L'ensemble des députés va se prononcer mardi après-midi lors d'un vote à bulletin secret à la tribune. Si elle était élue, Yael Braun-Pivet succéderait à Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, battu au second tour des élections législatives. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 19h sera Diane Mazloum pour le Musée National, publié aux éditions Stock. Elle raconte la nuit qu'elle a passée au Musée National de Beyrouth. Extrait.
J'ai eu la chance, je dirais, de passer ma nuit dans le Musée National de Beyrouth quelques mois après la double explosion au port en août 2020. Et j'ai passé ma nuit en décembre 2020. Alors, il s'avère que ce musée, qui a été construit dans les années 30 et il a ouvert ses portes dans les années 40, un an avant la déclaration de l'indépendance du Liban, a été construit sur ce qui va devenir la ligne de démarcation pendant la guerre civile libanaise. C'est-à-dire que lors de ce conflit qui a duré 15 ans, de 75 à 1990, Beyrouth a été divisé en deux camps adverses. Beyrouth Est, le camp chrétien, et Beyrouth Ouest, le camp musulman. Et ces deux camps s'affrontaient et le musée était situé pile au milieu, ce qui fait que, évidemment, il a très rapidement fermé ses portes, mais le musée a aussi tout de suite été pratiquement abîmé, endommagé, détruit. Donc le directeur de l'époque a essayé de tout faire pour sauver les œuvres, tout ce qu'il pouvait. Tout ce qui était petit, il a essayé de les regrouper, de les mettre dans le sous-sol, dont l'accès qu'il a fait sceller par une porte en béton armé. Les grands sarcophages, les colosses, parce qu'on parle bien sûr de collections d'antiquités phéniciennes et autres, gréco-romaines, etc., ont été recouverts de caissons en béton armé, les mosaïques ont été couvertes d'une couche de ciment, et le musée, livré à lui-même, a été occupé à ce moment-là par toutes les armées, l'armée libanaise, l'armée israélienne, l'armée syrienne, ainsi que les milices des deux camps, chrétiens, musulmans, toutes ces milices. Donc le musée était vraiment habité par que ce soit des soldats que des miliciens. Et jusqu'aujourd'hui, on en trouve les traces. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on a une très ancienne mosaïque babylonienne qui présente ce qu'on appelle le trou du franc-tireur. Donc à l'époque, un des habitants du musée, un franc-tireur en l'occurrence, a jugé bon, depuis l'intérieur du musée, de percer un trou dans le mur du musée pour pouvoir tirer, c'est-à-dire tirer sur toutes les personnes qui essayaient de passer d'un camp à l'autre de la ville. Et Il s'avère que sur cette trajectoire qu'il a jugée la meilleure se trouvait cette mosaïque. Et on retrouve jusqu'à aujourd'hui ce trou du franc-tireur.
Quelles ont été les conséquences de la double explosion du port de Beyrouth sur le musée ?
Alors, le musée est aussi l'un des miraculés de cette double explosion, comme un grand nombre d'habitants.
Y compris vous-même, puisque vous étiez présente à Beyrouth le 4 août 2020.
Effectivement, bien que le nombre de victimes est pour nous criminel, parce que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, mais vu les dégâts par la suite, on se demande comment est-ce que c'est possible qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et le musée qui, à vol d'oiseau, n'est pas très loin du tout du port, vraiment. En fait, oui, il a eu toutes les portes et le verre qu'il contient brisé. Mais ce qui est très étrange, et que je trouve même symbolique, c'est que des pièces dans les vitrines ont été penchées par le souffle. Certaines pièces, comme ça, ont été penchées sans vraiment tomber. Elles sont restées penchées par le souffle. Les œuvres du musée ont été épargnées par cette double explosion.
Diane Mazloum, invitée de la bibliothèque de Radio Orient à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 18h pour le journal et tout de suite votre rendez-vous avec l'humanité. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.